un moment de stress. Et il va avoir une sorte de réveil spirituel, un ange qui vient dans la prison et qui lui dit « Les portes sont ouvertes. » Alors, on écoute la parole. Le roi Hérode avait mis à mort quelques membres de l'Église, et comme les Juifs s'en réjouissaient, il fit saisir, arrêter et jeter en prison Pierre. Pierre était là en prison, surveillé par 4 escouades de soldats à 4 portes différentes. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière des gens de l'Église montait vers le ciel pour qu'ils puissent s'en sortir, pour que Dieu vienne le relâcher. Or, la nuit, avant de comparaître en cour pour recevoir sa condamnation à mort, Pierre était endormi. Entre 2 soldats, les mains et les pieds attachés. Soudain survint un ange dans le cachot, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et lui dit de se lever. Lève-toi, debout, passe tes sandales, mets-toi ton manteau. Laisse-toi passer la ceinture. Viens, suis-moi. Et Pierre se leva, il suivit l'ange et n'en croyait pas ses yeux. Les portes de la prison s'ouvraient une après l'autre dès que l'ange arrivait à la porte. Et c'est ainsi qu'il se ramassa dans la rue, dans la porte de fer qui donne sur la rue. Et il essaya de se souvenir où se trouvait le groupe de prière dans lequel il était, qui intercédait pour lui. Enfin, il se repéra, retrouva la rue, frappa à la porte. La servante le reçut, mais elle ne le crut pas que c'était Pierre. Alors, elle est rentrée dans le groupe de prière pour leur dire « c'est Pierre », mais lui frappait et on le laissait attendre. Enfin, on vint lui ouvrir. Et Pierre le racontait comment ça s'était passé en prison et comment il avait réussi à s'en sortir.
On va prendre le temps d'un chant pour se disposer le cœur un peu, prendre le temps de se laisser pacifier, faire silence à l'intérieur de soi.
Dès le commencement du monde, tu as voulu tout me donner. Et pour qu'en moi la vie abonde, tu m'as donné l'amour d'aimer. Car en ton cœur j'ai trouvé une source d'espérance. Car en lui seul j'ai puisé tout l'amour que je peux donner.
Et à chaque jour tu me donnes de n'être qu'un immense amour. Rends-moi digne de ta grâce, apprends-moi à me contenir, car en ton cœur j'ai trouvé une source d'espérance, car en lui seul j'ai puisé tout l'amour que je peux donner.
Confiance et dans ton cœur me réfugier, car en toi seul mon espérance, oui Seigneur tu es mon rocher.
ton cœur j'ai trouvé une source d'espérance, car en lui seul j'ai puisé tout l'amour que je peux donner.
Alors, pour entrer dans la parole après-midi, je vais commencer par des choses simples, des anecdotes, des exemples, pour préparer. Alors, cette expérience, à un moment donné, comme Pierre a vécu, lui, dans sa prison, un jour, tu as l'impression que toutes tes portes sont fermées. Un jour, tu as l'impression que tu verras jamais la lumière. Un jour, tu as l'impression que ça a toujours été comme ça, puis les choses seront toujours comme ça. Et à un moment donné, tu sais pas comment ça s'est passé, tu sais pas comment ça arrive. Mais il y a une expérience, et c'est comme s'il y avait une lumière qui éclairait ton tunnel, ton intérieur, et les portes commencent à s'ouvrir, et tu viens avoir des réponses, et il y a des lumières que tu t'attendais pas, et ça, les choses seront jamais plus pareilles. D'abord, une petite anecdote. Vous savez, ceux parmi vous autres qui attendaient, Pierre, il y avait un groupe de prières qui priait pour lui, hein, pendant qu'il était en prison avec un groupe de prières. Et nous autres, c'est assez comique, ça, c'est assez étrange. Les jeunes qui viennent à notre maison pour un problème de toxicomanie, le sida, sont sur la rue. Alors, on découvre à un moment donné que toujours, quelqu'un, ça fait des années qu'il prie pour lui, ça fait des années qu'il prie pour eux autres. Et à un moment donné, à force qu'un enfant prie pour toi, qu'une grand-mère prie pour toi, écoute, là, il y a assez quelqu'un qui a cru en toi puis il t'a porté, que ça se peut pas que les portes s'ouvrent pas, ça se peut pas que tu t'en sortes pas. L'autre jour, j'étais avec des enfants handicapés, physique et mental, des jeunes, des adolescents, 15 ans, 16 ans. Et je leur avais fait faire une animation, puis il y en a un qui a dessiné une tortue, du vœu là, du bois de vœu là. Elle dit, une tortue, ben oui, mais... Ben oui, il dit, j'ai fait des pas. Ben, j'ai dit, on va faire les pas. Il dit, sais-tu quoi? Il dit, pour moi, une tortue, là, il dit, pour moi, un jour, ça a été une pierre, une grosse pierre dans un champ quelque part. Puis il dit, j'ai l'impression que la pierre s'est mise à rêver, qu'elle bougeait, puis qu'elle ferait quelque chose de sa vie, puis qu'elle avancerait dans la vie. Puis à force de rêver qu'elle bougerait, j'ai l'impression que la vie a donné des pieds pour marcher puis avancer. Puis il dit, je pense que c'est comme ça qu'est venu. Les tortues sont venues au monde. T'as des rêves. Et les rêves, un jour que t'as eu enfant, ce que t'as rêvé de plus beau, ce que t'as rêvé de plus grand, à un moment donné, ça va te faire bouger. À un moment donné, ce que t'as cru peut arriver, puis ça peut être à l'intérieur de toi. J'ai assez accompagné de gens qui allaient mourir, surtout des jeunes, pas possible. J'ai toujours été étonné de voir que certains partent en douceur, c'est de toute beauté. Mais il y en a d'autres, c'est l'enfer. Vraiment l'enfer. Et un jour, j'étais avec un jeune qui allait mourir dans quelques heures, et je le voyais angoissé. Et il me dit, tu sais, c'est pas mourir qui est dur, c'est de pas savoir. Je lui dis, dis-moi donc ça. C'est pas de mourir qui est dur, c'est de pas savoir. Il dit, dis-moi ce qui m'attend de l'autre côté. Dis-moi ce qu'il y a de l'autre bord. Dis-moi comment ça va se passer, mais que je sois dans le tunnel. Dis-moi qu'est-ce qui m'attend de l'autre bord, au bout du tunnel. Dis-moi qu'est-ce qui m'attend. Je vais être capable de partir, je vais être capable de prendre mon envol, je vais être capable de rentrer dans le couloir. Dis-moi qu'est-ce qui... Hey, c'est pas d'être jeune qui est dur, c'est de pas savoir. C'est de pas savoir la fille que tu as rencontrée dernièrement, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est ça à quoi je suis appelé? Le plus dur pour tes parents, c'est pas d'être tes parents, c'est de pas savoir. De pas savoir, est-ce qu'on te donne ce qu'il te faut? On a-t-il fait tout pour toi ce qui était capable, humainement possible de faire? On était-tu les bons parents pour toi? T'es-tu le bon jeune pour le travail que tu rêves un jour, pour la profession que tu veux? Alors, tes rêves, tes aspirations, ce qui te fait battre le cœur, est-ce que ça va te faire arriver avant? Vous connaissez Michel-Ange, de réputation. Michel-Ange, c'est un grand artiste, sculpteur au Moyen-Âge, là, ça fait 400 ans. Il t'a fait des sculptures extraordinaires, et dont une, c'est une maman avec un petit bébé dans ses bras. C'est de toute beauté. À vous arracher les larmes, vous avez l'impression que l'enfant, le cœur, il bat, puis on dirait que la mère est vivante, c'est beau. On dit que la journée où Michel-Ange a dévoilé sa statue, il y aurait un enfant qui aurait levé la main et aurait dit au sculpteur, « Monsieur, hey monsieur, avec quoi c'est fait? » La maman avec son petit bébé dans ses bras. Il dit, « Ben ça, c'est fait avec de la pierre. C'est de la pierre qu'on m'a amenée dans ma cour chez nous, un tas de pierres qu'on a pris dans la montagne, qu'on a pris dans le rocher, puis on a amené ça en arrière de la maison chez nous. Et puis moi, tous les soirs, je sortais dehors, dans le cour, quand les gens rentraient chez eux le soir pour pas qu'ils me voient sortir dans le cour, et puis j'allais toucher à la pierre, j'allais la palper, j'allais la caresser, j'allais la prendre dans mes bras, je la palpais, je la touchais, puis je priais. Et j'ai dit, dis-moi ce qu'il y a en arrière de cette pierre-là. C'est quoi qui est caché dans cette pierre-là? Pour que cette pierre-là soit aussi résistante, pour que cette pierre-là soit aussi dure. Il doit y avoir quelque chose dans cette pierre-là, je peux pas croire. Et il dit, à force de la prendre dans mes bras, à force de la contempler, à force de la regarder, à force de la toucher, à force de prier, à un moment donné, c'est comme si je chantais que dans la pierre, il y avait une vie. Puis à certains soirs, j'avais l'impression que c'était une maman qui était cachée dans la pierre avec un petit bébé dans ses bras. Alors il dit, quand ça a été clair que c'était une maman avec un petit bébé dans ses bras, il dit, moi le sculpteur, j'ai fait simplement d'enlever la pierre qu'il y avait sur l'enfant puis sur la maman, puis ça a donné cette statue-là, ça a donné ce chef-d'œuvre-là, cette sculpture-là. Il y a un chef-d'œuvre à l'intérieur de nous autres. Il y a un chef-d'œuvre d'enfoui dans ton intérieur. Il y a une beauté cachée à l'intérieur de toi. Il y a un chef-d'œuvre. Et la personne qui va découvrir ce chef-d'œuvre-là, tu vas avoir simplement enlevé ce que tu as trop. Tu vas simplement enlever ce qui t'empêche de devenir ce que tu es. Et tu vas devenir la belle personne. Le gars que tu rêvais que tu as vu dans ce gars-là qui est le tien, ton chum, celui qui est devenu ton mari, tu vas voir ce que tu vas voir. Il y a une beauté cachée. Mais il faut que tu aies les yeux de la foi hein, pour voir ça. L'autre jour, j'étais à l'hôpital avec un homme, 44 ans, qui allait mourir, un professeur d'université, un génie en physique, un intellectuel, pas possible. Je le mets dans les rapports Guinness, chose. Il m'a mis à la porte trois fois de sa chambre d'hôpital pendant qu'il était mourant. Faut le faire. Alors, un succès formidable. La dernière fois que je suis allé, là, j'ai dit, écoute bien, hey, le Moses, il va peut-être partir dans 2-3 jours, et il aurait peut-être même pas parlé. Puis là, faut pas qu'il parte comme ça, là, hein. Alors, je rentre dans la chambre, puis j'ai dit, là, il avait les yeux fermés, alors tout recueilli, ça fait que je m'assis sur le bord de son lit, je commence à y parler doucement, et puis je dis, est-ce que tu veux le sacrement du pardon? Puis je commence à y parler du corridor de la mort, de l'autre côté, et puis il me laisse parler, et puis je vis le sacrement du pardon, et puis il était de toute beauté à voir. Pendant une heure, il n'a pas ouvert les yeux. C'était comme ça dans le calme. Alors après, le sacrement du pardon, puis j'ai dit, dis donc, prends-tu de la morphine, toi?
Pourquoi?
Si tu fais les yeux baissés. Ah, il dit ça, c'est... Ça ne te regarde pas.
Ben, j'ai dit, t'es sous médicament.
Il dit non. Pourquoi tes yeux baissés? Il dit, écoute, tu ne me croiras pas, hein? Parce que j'étais un incroyant, je t'avais dit que je ne croyais pas à Dieu, puis j'étais sûr d'être incroyant. Il dit, imagine-toi donc que l'autre nuit, j'ai eu un songe, et dans mon songe, j'ai vu ce qu'il y avait l'autre bord, ce qui m'attendait l'autre bord. Et puis il dit, depuis ce temps-là, je veux tellement pas le manquer, je veux tellement le voir venir, mon Dieu, là, je veux tellement pas manquer son passage que je garde toujours les yeux pour le voir venir. La foi, là, Des fois, c'est de fermer les yeux sur ce que quelqu'un t'a fait. C'est de fermer les yeux sur des blessures que la vie t'a fait. C'est de fermer les yeux sur des choses que Dieu, que les parents t'ont dit, qu'un ami t'a dit, les fermer pour voir ce que Dieu dit de toi. Aïe, il y en a parmi nous autres qui sont assez blessés de paroles dures, de paroles qui les ont fendu le cœur en quatre. Est-ce que tu crois autant aux paroles que Dieu dit sur toi que ce que tes parents ont dit sur toi ou ce que des gens disent de toi à l'école? Est-ce que tu crois plus à ce que Dieu dit sur toi que ce que les autres ont dit sur toi? J'étais, il y a quelques années, je peux dire son nom maintenant parce qu'il a témoigné dans les prisons que c'était moi le prêtre qui avait donné le sacrement du pardon, Dominique. Dominique, c'est quelqu'un qui avait, il y a quelques années, ça fait 25 ans, il a tué un meurtre. Un meurtre vraiment plate pour sa maudite consommation. Alors, un coup de batte de baseball. Alors, il m'appelle en pleine nuit, 4 heures du matin, pour dire, écoute, il vient de m'arriver quelque chose de bien plate, je viens de tuer, tu viendrais-tu? Alors, je me rends au centre-ville, on est dans la rue. Alors, il est en train de me raconter l'histoire de ce qui s'était passé, il pleure comme un bon. Et à un moment donné, ça faisait à peu près une demi-heure qu'on était ensemble, il me dit, est-ce que tu me donnerais le pardon? J'ai dit, t'es malade, toi? Ça fait à peu près trois quarts d'heure que ça s'est passé. Puis je vais te donner le pardon tout de suite. Tu trouves pas que... On va aller voir la police, là, puis on va aller... Va te déclarer avant. Puis ils vont te garder au poste, puis demain, j'y retournerai. Puis si t'as encore le goût de recevoir le pardon, je te donnerai le pardon, mais saute pas d'étape, là. Va pas plus vite que... Va pas aussi vite que ça. Mais Christian, je te demande seulement de me regarder, me donner dans le pardon la façon dont Dieu me regarde. Et si moi, je sais pas comment Dieu me regarde par le pardon, par le prêtre que t'es, tu viendras dans deux jours dans ma cellule, je me serai enlevé la vie parce que je serai plus capable de m'endurer. Donne-moi, qui me dit, le regard avec lequel Dieu me regarde. Tu comprends-tu, là? On a vécu le pardon. 5 heures du matin, à pleine pluie battante, dans une rue, sur la rue, j'ai donné le pardon, j'ai donné le regard avec lequel Dieu le regardait. Vous auriez dû voir le changement, vous auriez dû voir la transformation de ce gars-là. Il a été 25 ans en prison, il a témoigné dans toutes les prisons du Canada, comment, à travers le pardon, comment il a arrêté de se droguer ce soir-là, il a arrêté de la consommation des médicaments, comment il a lâché la boisson, drogue, tout. Et dernièrement, il vient de partir pour l'autre bord après 25 ans en dedans. Une vie extraordinaire. Il a vu comment Dieu le regardait. Aujourd'hui, dans l'Évangile, qu'on a vu tantôt, on dit que Pierre, était en prison, la ville avait arrêté, puis était comme condamné à mort. Puis on dit qu'à un moment donné, il y a une lumière qui s'est faite dans sa cellule, il y a eu une sorte de poussée intérieure qui lui a dit, creuve pas en prison, reste pas dans l'état où tu es, tu te lèves, les portes vont s'ouvrir, tu as simplement à foncer, puis je suis avec toi. Et il dit, c'était comme un ange qui me poussait à sortir des murs de prison. Je vais vous expliquer ça de façon bien simple. D'abord, je pars d'un événement, j'ai une nièce, plusieurs nièces, il y en a une à sa petite fille, Marie-Claude, qui l'hiver passé avait 5 ans et demi. Marie-Claude, Laurence, sa petite fille, Marie-Claude, a dit, Maman, comment t'as fait pour savoir ça, que papa, Stéphane, ce serait ton amour pour toute ta vie? T'as pris ça où, toi, maman, que papa Stéphane, ce serait ton homme, ton amour pour toute ta vie? Puis à part de ça, je veux savoir, t'as pris ça où, toi, que papa Stéphane, c'est lui qu'il fallait que soit mon papa et pas un autre? T'es allé chercher ça où, toi, maman? Marie-Claude a dit, ben regarde, c'est un ange qui m'a dit ça. Laurence a dit, c'est un ange. Elle dit, ça parle, les anges? Ben oui, ça parle, Laurence. Elle dit, comment qu'il te dit ça, là, l'ange, que papa, c'était mon papa, puis c'est lui qui devait être mon papa, puis ça, ton ange. Elle dit, regarde, quand j'ai rencontré ton papa, quand j'ai rencontré Stéphane, le cœur, il me battait tellement, tellement, tellement fort. J'étais tellement, tellement, tellement excitée, tellement heureuse, hein. Puis ça a tellement duré, là, des semaines puis des mois, que si, même si j'avais voulu pas aimer ton papa, même si j'avais voulu arrêter de l'aimer, j'aurais été jamais capable parce que c'était plus fort que moi. J'avais une poussée et ça me poussait. C'était plus fort que moi. Alors, Marie-Claude, alors, Laurence, elle regarde, puis elle dit, « Hey, maman, je pense qu'il y a un ange qui m'a parlé après-midi. » T'as un ange qui t'a parlé. « Ouais. Maman, tu te souviens-tu quand ma petite sœur, elle pleurait? Es-tu fatigante? Elle pleure pour rien. » Alors là, le mois après-midi, j'étais choqué, enragé après elle, et j'ai décidé d'aller y faire fermer la boîte. J'étais très, très, très décidé à y donner une bonne tape. J'attendais rien que t'ailles dans la chambre, parce que moi, j'avais décidé de la faire arrêter de pleurer. Puis elle dit, quand t'es rentré dans ta chambre, je suis parti. Puis elle dit, moi, j'étais décidé, elle est tellement fatigante, ça n'a pas de bon sens. Puis elle dit, imagine-toi donc, maman, que je suis arrivé à côté d'elle. Puis, j'ai levé la main pour lui donner une tape, là, hein, puis tu ne me croiras pas, hein, les deux mains, ils m'ont parti, puis les deux bras, ils m'ont ouvert tout seul. Puis je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai donné la plus belle caresse, puis le plus beau câlin que j'avais jamais donné à personne. Maman, c'était plus fort que moi. Elle a dit, c'est ça un ange? Sa mère a dit, c'est en plein ça, t'as compris, c'est un ange qui t'a fait donner cette caresse-là à ta petite sœur. T'as des anges, t'as des poussées, t'as des inspirations, t'es guidé, c'est ça la spiritualité, c'est ça la foi, c'est ça, c'est une poussée intérieure qui te pousse un jour à croire à la vie. Je me souviens aussi d'une madame, il se mariait. C'était moi qui étais le prêtre qui les avait accompagnés pour se préparer. Alors, le matin de leur mariage, elle a dit, tu viendrais-tu? Avant le mariage, j'ai quelque chose à y dire. Je me rends à l'église, plutôt. Puis, elle a dit, elle a dit, tu viens avec nous autres, j'ai quelque chose d'important à dire. Elle regarde, puis elle y monte son fiancé du doigt, puis elle dit, je t'aime, hein. Puis là, je te marie pour la vie, hein. Puis là, tu seras jamais capable de te débarrasser de moi. Moi, c'est pour la vie, hein. C'est pour l'éternité. Alors, elle dit, essaye pas de te défaire, même si tu me laissais. Moi, dans mon cœur, je vais continuer à t'aimer, alors tu vas trouver ça bien énervant, puis bien fatigant. Je te laisserai jamais. Mais elle dit, fais-moi jamais ce que ton père a fait à ta mère. Parce que tu me tues. Tu me défais bien raide. Fais-moi jamais. Je te laisserai pas, hein? Je vais continuer à t'aimer, hein? Mais je serai pas capable de le prendre. Je vais être défait. Fais-moi pas ça, OK? Il se marie. 17 ans après, elle m'arrive dans le bureau, en larmes. Mais en larmes, défait, ça a pas de mot, t'as dit, bon sang. Je dis, c'est que t'arrives. Elle dit, tu te souviens-tu? Quoi? Le matin de notre mariage? Oui. Tu te souviens-tu de ce que j'ai dit à mon chum, à mon fiancé? Oui, je me souviens. C'est loin, là, mais à peu près, oui. Elle dit, tu te souviens? Ben, ce que j'avais dit, fais-moi jamais ça, il me l'a fait. Je t'ai enragé. T'es enragé après, hein? Non, qu'elle me dit, je t'ai enragé après moi. Comment ça? C'est lui qui te l'a fait, puis t'es enragé après toi. Elle dit, écoute bien. Je m'étais bien dit hein, que j'y pardonnerais jamais puis je le prendrais jamais. Ben je te jure qu'elle me dit une heure après qu'il me l'ait avoué, puis qu'il a pleuré de m'avoir fait ça, après une heure, j'avais déjà pardonné. C'était plus fort que moi. J'ai dit pourquoi t'es enragé comme ça? Ben elle dit je suis enragé de voir que je pensais jamais que quelqu'un pouvait autant avoir d'amour que ça, puis qu'on pourrait pardonner. Jusqu'à ce point-là, je pensais jamais qu'on pouvait aimer comme ça. La force, hein, on dit que Pierre est en prison, Et il s'est fait une lumière à l'intérieur de lui, et il y a eu une poussée intérieure pour dire, hey, toi, tu te remets le manteau, puis tu te repasses la ceinture, puis tu te rechausses les sandales. Tu voulais tout sacré là, hein, tu voulais arrêter d'aimer, hein, puis tu voulais arrêter de prier, hey, tu te relèves, toi, mon grand, hey, tu te rechausses, hey, tu te remets le cœur à l'ouvrage. Et l'ange lui dit, de toute façon, les portes sont ouvertes. T'as rien qu'à me suivre, puis je t'ouvre les portes, puis je vais t'amener là où ce que tu pensais. Suis la voie. Vous savez, l'amour, puis la foi, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, quelqu'un qui joue de la musique, puis qui commence. Hey, c'est quelque chose, hein? Puis c'est fatigant d'entendre jouer, hein? Ah, mon Dieu Seigneur, quand il se pratique. Hey, l'autre, là, qui apprend à danser, hey, ça a-tu de l'air épais des fois? Eh, hey, mon Dieu! C'est toute la différence du monde entre quelqu'un qui apprend la musique puis quelqu'un qui est un artiste puis qui l'a dans les veines puis qui l'a dans le système puis qui l'a dans le body. Je sais pas si vous avez déjà remarqué quelqu'un qui est un grand artiste en train de danser. Je le regarde danser, là, puis je dis, mais il danse pas, hein, c'est pas lui qui fait la danse. C'est la danse qui danse à l'intérieur de lui, c'est la danse qui danse à l'intérieur d'elle. Quand t'as un don, là, puis quand t'as un charisme, là, puis quand t'es à ta place dans la vie, puis que t'es fait pour ça, là, hein, on dirait que c'est plus fort que toi, on dirait que t'es emporté, on dirait que t'es poussé, on dirait que il y a un courant à l'intérieur de toi, on dirait que l'esprit te porte, c'est pas possible. Il faut que je vous dise, je vais vous raconter un exemple qui va vous faire comprendre. T'as une mission, tu comprends-tu? T'es faite pour quelque chose, t'es faite pour aimer, t'es faite pour quelque chose d'important dans la vie, la vie attend quelque chose de grand de toi. Et à un moment donné, là, la vie te pousse à ça, là, hein, puis tu, elle te move, elle te drive là-dedans, là, hein, et puis c'est à l'intérieur de toi, hein. Moi, hey, Monseigneur Turcotte, à Montréal, il nous racontait ça l'année passée, il était à une confirmation. Alors, il est en train de confirmer les jeunes, et c'est l'Esprit-Saint, hein? Alors, il dit, quel don vous demandez que l'Esprit-Saint vous donne aujourd'hui, comme cadeau, comme don? Ce bonhomme qui lève la main, il dit, moi, mon Seigneur, il dit, je voudrais avoir le don de force. Force. Alors, l'évêque le regarde avec un sourire, puis il dit, tu veux le don de force, toi, parce que tu joues au football, toi, hein, d'après ce que je peux voir, là, costaud comme t'es. Alors, tu rocker comme t'es, tu joues au football. Alors, je suppose que tu vas avoir le don de force, parce que quand tu joues au football, tu voudrais mettre le monde à terre, puis tu veux plaquer tes adversaires comme il faut, hein, pour pas qu'ils se relèvent quand tu les as donnés. Il dit, non, c'est pas ça, vous avez pas compris, mon Seigneur. Il dit, je veux avoir le don de force. Il dit, je viens d'apprendre dans mes cours pour suivre ma confirmation, je viens d'apprendre que quand on est confirmé, normalement, on va à messe le dimanche. Alors, il dit, imaginez-vous donc, mon Seigneur, moi, le dimanche, je vais être le seul à me lever pour aller à messe le dimanche matin. Toutes les autres, ils vont rester couchés, puis je vais être le seul à la maison. Alors, il dit, il va y avoir un mot de force pour me lever du lit, pour me sortir du lit, pour aller à la messe le matin pendant que les autres dorment. Mon Seigneur dit, mon Dieu, c'est brillant ton affaire. Mais il dit, t'es sûr que tu ne demandes pas le don de force pour quand tu plaques le monde pour qu'il tombe à terre comme il faut. Il dit, non, c'est pas tout à fait ça. Il dit, je demande le don de force pour que quand moi je me fais plaquer, puis moi jusqu'à terre, pour être capable de me relever de bout après, puis de jouer ma game comme si rien n'était, puis avoir du plaisir à jouer au lieu de bouder, puis au lieu d'envoyer promener tout le monde. C'est un don de force qui est envahi par l'esprit. Puis quand l'esprit est avec toi, puis que tu as l'amour, puis tu as les lumières de Dieu à l'intérieur de toi, tu es capable d'ouvrir des portes qui normalement ne s'ouvriraient pas. Tu es inspiré, tu es guidé, tu es éclairé. Je vous donne un exemple. Certains me connaissent parce que ça m'a marqué beaucoup dans ma façon d'être prêtre. Quand le sida a commencé, au Québec, on me demandait pour aller accompagner certains jeunes qui allaient mourir de la maladie. Et au début, on ne savait pas comment ça s'attrapait, on ne savait pas comment trop c'était contagieux, jusqu'où c'était. Alors, il fallait prendre toutes sortes de précautions. Alors, il y a une mère qui m'appelle et elle me dit, écoute, mon fils Jacques, il reste quelques semaines, est-ce que tu irais? Il n'a jamais vu un prêtre, elle dit, je ne sais même pas s'il a fait sa première communion. Alors, il n'a jamais pratiqué, il n'est jamais allé à l'église, mais il a peur de ce qui lui arrive, puis il a peur de se montrer à face de l'autre côté, puis il voudrait avoir quelqu'un avec qui parler. J'ai dit, OK. Elle dit, attention, il est agressif, il est plat. Ça fait 3 mois qu'il est à l'hôpital, on n'est pas allé le voir, personne de ses amis, pas un, sa famille, parce qu'on a peur, on sait pas comment ça s'attrape, puis on est mieux pas être là. Alors, il est agressif, il est bête, il est plat. Il va t'envoyer promener. Fait que j'arrive à l'hôpital, et puis je viens pour entrer, puis les infirmières m'ont dit, t'es au courant, puis t'es arrivé un petit peu tard, il est devenu aveugle, puis il est muet. Puis il voulait le sacrement du pardon, il voulait parler de son passé avec toi. Je sais pas comment tu vas faire ça, mais essaie de débrouiller. Mais je t'avertis, il est aveugle, puis il est muet. Puis elle dit, il est très, très, très agressif, alors attends-toi, il peut te remettre dehors de la chambre comme rien. J'ai dit, OK. Je viens pour entrer, les infirmières me disent, oh, tu mets le masque, les gants, la soupe, protection, quoi? Oubliez ça, hein? Non. On dit, c'est la consigne, t'es obligé, t'as même pas le choix. OK. Vous auriez dû me voir rentrer dans la chambre de Jacques, le masque, les gants, j'avais de l'air épais, ça avait pas de maudit bon sens. C'est épais, là, vraiment épais. Je m'assis sur le bord de son lit, puis après 8 minutes, si tu veux dire à quelqu'un que tu connais pas, tu n'as jamais rencontré de ta vie, et puis il va mourir dans quelques jours, quelques heures, et puis il veut que tu lui pardonnes de son passé, mais tu sais rien de lui. Alors, je suis sur le bord du lit, puis j'ai parlé un petit peu... Après, c'est une minute. Alors, je dis au Seigneur, écoute, je suis bloqué. Je suis jamais. Je sais pas quoi y dire. Je sais pas comment il me prend. Je sais pas comment lui donner le sacrement du pardon s'il a rien dit. Je sais pas ce que ça va faire, moi, là, c'est ça qu'il a besoin. Alors, j'ai dit, regarde, Seigneur, tu me vois, là, je suis sur le bord du lit, puis là, je suis jamais. Puis j'ai plus d'idée. Puis là, j'ai plus de moyens. Alors, c'est toi qui m'as fait venir ici. C'est toi qui as dit ça à sa mère, qui a mis ça dans le cœur de sa mère de m'amener ici. Et t'as amené que c'est toi qui m'as amené ici, fais ta job, OK, là? Alors ça, c'est à toi de débrouiller. Là, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis rendu, mais j'ai pas d'autre. Débrouille. Dis-moi quoi dire. Alors, j'entends une petite voix qui me dit, parle, puis je vais te suivre, puis je vais te dire quoi dire. Parle. Je parle de quoi? Parle. OK. Jacques, comment ça se fait que t'es atteint? T'as pris ça où? T'as attrapé ça comment? T'as ce sida-là, t'es pas dans le milieu, toi? T'es pas dans le milieu gay de Montréal? T'as jamais pris une seringue dans tes bras? T'as pris ça où? Dis donc, tu t'es marié, toi? T'as une femme extraordinaire, hein, une femme merveilleuse, hein, t'as aimé cette femme-là. Et puis, t'as un enfant, hein? Elle t'a laissé. Elle t'a laissé parce que elle était pleine d'amour pour toi, mais toi, tu l'as jamais accueilli, je suppose, t'as jamais été capable de le recevoir. Alors, elle t'a quitté parce que tu refusais cet amour-là, hein? Dis donc, Jacques, c'est quoi qui s'est passé, enfant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Aurais-tu été abusé par hasard, toi? Y a-tu un secret? T'as un secret, hein? T'as quelque chose que t'as jamais dit à personne, hein? Et puis t'as gardé tout ça, hein? Et puis ta femme n'était pas capable de savoir ce que tu vivais puis tes émotions, hein? Parce que tu gardais tout ça, hein? T'as un secret, hein? Hey, vous auriez dû le voir. Il pleurait comme un enfant. Les choses se libéraient, c'est pas possible. Les choses se dégageaient à chaque phrase que je disais. C'était quelque chose de nouveau. Pendant 1 heure, comme ça, j'étais capable de lui faire passer tout son passé. Tout son passé a repassé. Comme une vue, comme un film. Or, après 1 heure, j'explique le couloir. J'explique comment ça va se passer. Puis j'ai dit, ah, il t'en reste probablement pour une couple d'heures. Écoute, fais confiance, au bout du tunnel, il y a quelqu'un, il y a une lumière, c'est quelqu'un, c'est Jésus. T'es déjà pardonné. J'ai donné le sacrement du pardon, c'était beau. Il y avait de la lumière dans cette cellule-là, dans cette chambre-là. C'était une paix, c'était extraordinaire. Alors, après 1 heure et quart, je dis, il me semble que j'ai fait du bon travail. Je pense que satisfait. Il avait l'air tellement heureux. Alors, j'ai dit, Jacques, écoute, je te laisse, puis je pense à toi, puis je t'oublie pas, mais je te porte dans le cœur, puis... Je viens pour sortir de la chambre. C'était une chambre vitrée, pour la surveiller. Puis, j'ai barré, j'ai bloqué, je sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai bloqué le système. Alors, les infirmières, l'autre bord, savaient pas trop ce qui arrivait, ça fait qu'ils sont allés chercher un mécanicien, une affaire pour débarrer. Alors, ça lui a pris 20 minutes, ça fait que pendant que j'attendais, moi, j'ai une petite voix intérieure, des fois, ça te parle, hein? C'est ça, hein? Tu lui as dit que Dieu l'aimait, puis Dieu lui a pardonné, mais toi, tu lui as-tu dit que tu l'aimais, que tu fais un geste pour lui montrer que tu l'aimais? C'est ça, hein? Si t'étais sur ton lit de mort, t'aimerais pas ça que quelqu'un te prenne par la main puis qu'il t'accompagne jusqu'à temps que tu sois rendu l'autre bord. Si lui, il reste une couple d'heures à vivre, ça serait pas bon que tu lui prennes la main puis tu dis, je vais aller te reconduire.
Ouais.
C'est ça, hein? Ça faisait 3 mois que personne t'a touché, personne t'a pris dans tes bras, personne t'a donné une caresse, personne t'a donné de l'affection parce qu'ils ont peur de ta maladie. T'aimerais pas ça que quelqu'un te prenne dans ses bras puis te serre? Ou, je disais, attends un peu, toi là, celui-ci là, hein? Hey, les gens dans mon temps, moi, ils étaient atteints de la lèpre, puis c'était contagieux, puis je les prenais dans mes bras, puis je les touchais. OK. J'ai retourné sur le bord du lit, tu me suis assis, j'ai dit, Jacques, regarde bien. Moi, là, je vais te reconduire, OK? Ça prendra 2 heures, 3 heures, moi, je vais te reconduire. Je te laisserai pas, je te quitte pas avant que tu aies rentré de l'autre côté. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de caresse. Je vais te donner la plus belle caresse que tu as jamais eue, mon homme de ta vie. Hey, on s'est pris, hein. C'était extraordinaire, c'était merveilleux, une caresse, là. Hein. Et 1 heure et demie après, il partait pour l'autre bord, dans la lumière, dans la paix, c'était de toute beauté. Je te jure que quand tu es dans la foi, et quand Dieu est avec toi, et que tu te laisses porter, puis tu te laisses inspirer, tu peux faire des merveilles, tu peux faire des miracles. Et il y a des choses que tu t'attendrais jamais, jamais, jamais d'être capable d'accomplir, qui s'accomplissent dans ta vie. Une psychologue religieuse, sexologue, me racontait l'autre jour, Marie-Paul Ross, qu'elle a eu une conversation avec un petit gars dernièrement de 9 ans. Alors, le petit gars arrive au bureau de la psychologue. Alors, ça fait 3 écoles qui se mettent à la porte cette année. 3 écoles. Et là, la mère est bien avertie qu'il s'agit d'une autre école qui le met à la porte, puis il n'est plus repris, puis il faut qu'il le place. Alors, elle dit, écoute, tu viens, je t'oblige à venir chez un psychologue. Alors, la psychologue est dans son bureau, elle accueille le jeune, et puis le jeune reste debout, elle dit, tu peux t'asseoir? Elle dit, on est dans un pays libre, si j'ai le goût de rester debout, je vais rester debout. C'est pas toi qui vas me faire asseoir. OK. T'es venu pourquoi? Ben, c'est ma mère. Je suis pas intéressé, mais c'est elle qui m'a obligé à amener ici de force. Puis pourquoi qu'elle amène ici? Ben, elle me dit que je suis plus du monde, puis elle dit que j'écœure tout le monde, j'écœure le peuple, puis elle me dit que je devrais apprendre à aimer un petit peu, puis être plus gentil, alors elle m'a obligé de venir ici. Puis il dit, t'es d'accord avec elle que ça serait bon que tu aies un petit peu plus d'amour? Et il dit, je suis pas intéressé, moi, il dit, j'ai décidé que j'allais haïr. Alors, c'est pas toi qui est psychologue, qui est religieuse, en plus de ça, puis est sexologue, c'est pas toi qui va me dire quoi faire, puis que me dire qu'il faut aimer. Moi, je veux haïr, petit bonhomme de 9 ans. Elle dit, tu veux haïr? Quoi? Moi, j'ai décidé que je voulais rien que ça dans la vie, puis c'est ça que je fais, puis tu me changeras pas. Elle dit, OK. Elle dit, regarde, tu me permets... Elle dit, je peux-tu te demander de t'asseoir, de fermer les yeux 5 minutes, et d'aller voir au fond de toi si c'est vraiment, vraiment ça que tu veux dans ton cœur haïr. Tu sais, le bonhomme, il dit, je vais te donner une chance, OK? Mais ça ne changera rien, ma décision est prise, puis je sais ce que je veux. Il me dit, je peux jouer à ton affaire. Alors, il s'assit, ferme les yeux. 2 minutes après, il se les ouvre. Puis, elle vient pour lui poser une question. Il dit, ferme ta gueule. Il dit, c'est pas à toi de parler. Il dit, je voulais rien voir si tu m'écoutais encore. Il n'avait pas parlé. Il a ouvert les yeux pour savoir si la psychologue l'écoutait. Fait qu'elle dit, OK, je vais attendre. Alors, 2 minutes après, il ouvre les yeux, puis elle dit, puis, es-tu prêt à... Il dit, que je t'enragis. Ton maudit des exercices. Pourquoi t'es enragé? Il dit, je te l'ai dit que je voulais haïr, puis je veux rien qu'haïr. Puis là, il dit, en fermant les yeux, puis en allant là, là, dans le fond, là, je me suis aperçu que c'est pas parce que je veux haïr, c'est parce que je veux plus souffrir, puis je veux plus pleurer, puis je veux plus me faire mal. Puis quand t'aimes, là, ben tu te fais faire mal. Puis moi, c'est pas haïr que je veux, mais c'est plus avoir mal. Je veux plus souffrir. C'est pour ça que je t'ai mangé comme ça. Moi, m'a dit, là, qu'est-ce que tu veux? Ben là, il dit, je suis obligé de te dire que ce que je veux, c'est pas d'haïr, mais je veux pas pleurer, puis je veux pas souffrir. Alors, puis c'est pour ça que je t'ai mangé comme ça. Alors, la sœur, la religieuse, la regarde, puis elle dit, t'as pris ça où, toi, là, la réponse que tu viens de me donner, là? T'es allé chercher ça où? Ben, il dit, là, là, dans le fond, là, de nous en haut, là, là où il dit, je pense que c'est Dieu, là, qui est là, là, comme ça, à 9 ans, fausse. Il est à l'intérieur de toi. Il agit à l'intérieur de toi. Il s'agit à un moment donné que tu laisses agir, que tu laisses travailler, que tu laisses remonter à l'intérieur de toi. On se lève, on prend un chant, et après, on prend une dizaine de minutes pour finir notre enseignement. Sur ce moment de la vie de Pierre qui est en prison, qui nous dit, il y a une lumière qui s'est faite, les portes se sont ouvertes, il a suivi l'ange, et en suivant l'ange, les portes se sont ouvertes, et il a retrouvé son chemin, il a retrouvé ce pourquoi il était fait. Patrick Roy, hein, qui a acheté les remparts après une vie assez bien remplie comme joueur hein, de hockey. Patrick Roy, quand il a acheté les remparts, il a réuni les jeunes. Il leur a dit, j'avais une mission qui me vient de quelqu'un. C'est la vie qui m'a donné le don que j'ai. C'est un cadeau que j'ai reçu. Et il dit, je vais vous dire, si vous voulez réussir votre mission, ce pourquoi vous êtes fait, il dit, je vous donne 4 conseils. Il a donné ça aux joueurs des Nordiques, des remparts. Il dit, quand je rentre sur une patinoire pour la partie de hockey que j'ai à jouer, il dit, je pose 4 gestes. Le premier geste, je regarde la foule. Ils sont 10 000. 15 000, 20 000 qui sont venus me voir jouer ce soir. J'ai 20 000 personnes à rendre heureux puis leur donner quelque chose qui en vaut la peine. T'as une foule, hein? Toi, à toi tout seul, dans ta vie de jeune, tu peux rencontrer 10 000, facilement 100 000 personnes dans ta vie. Et si toi, t'es à ta place, puis si toi, t'aimes ce que t'aimes faire, c'est incroyable les gens dans la vie que tu vas marquer et qui seront pas les mêmes parce qu'ils t'auront rencontré. T'as une foule. Alors, il dit, je regarde la foule. Il dit, le deuxième geste que je pose, je me suis fait montrer avant d'entrer sur la patinoire par les caméramans, où se trouvaient les 7-8 personnes à qui j'ai acheté un billet pour les faire venir me voir jouer ce soir. Il dit, à chaque partie de hockey, j'achète, je donne 7-8 billets. Il y a toujours 2-3 alcooliques ou drogués que je vais chercher pour leur donner la chance de voir quelque chose qui en vaut la peine, pour leur redonner le goût de vivre. Il dit, il y a toujours une mère qui est avec son enfant, qui est leucémique et qui attend, il a fait un rêve de me voir jouer au hockey, je le fais venir à une partie de hockey. Il y a toujours un homme, au moins un, que sa femme vient de le laisser, et il est dans une profonde dépression, il pense simplement au suicide, puis je l'ai fait venir, et j'en ai toujours 7-8 que j'ai choisi pour être là pour moi, pour me voir jouer. Alors, il dit, après avoir regardé la foule, je les regarde, les 7-8. Dans le coin, et je me dis, ce soir, je joue pour eux autres. Je ne suis pas capable de jouer pour 20 000 à la fois, mais je suis capable de jouer pour 6-7. Puis, à soir, je vais tout donner le meilleur de moi pour ces 6-7-là. Puis, là, il dit, je suis capable de déplacer des montagnes, je suis capable de me donner à 300% parce que j'ai quelques personnes pour qui je veux être à mon meilleur ce soir. Moi, je fais la même chose que quand je vais à la télévision, ce que je fais chaque semaine, puis que je rencontre, je parle à 30 000 personnes, 40 000 ou 50 000 personnes. Moi, je déteste la télévision. T'es dans un studio, t'as personne devant toi, t'as personne là, qui parlait, là, tu parles. Alors, moi, j'ai de la misère à parser l'écran, j'ai de la misère à traverser l'écran. Savez-vous ce que je fais? Je m'organise pour penser à une mère de famille qui me dit dernièrement qu'elle n'en peut plus avec son jeune, qui a peut-être de se suicider, qui veut s'enlever la vie, qui est dans la drogue. Je pense à un jeune qui me dit « Hey, à tous les matins, avant de partir de travailler, je te regarde ta maudite de face à la télévision. Ça me redonne un air d'aller, c'est pas possible. Moi, je vis la journée que tu parles à la télévision le matin, moi, je vis. » Hey, puis, il est dans la consommation, là, hein, ça fait que là, je le spot, hein. J'en prends 3-4 comme ça dans la tête et dans le cœur. La mère qui a de la misère avec son jeune, un jeune qui a de la misère avec lui, l'autre qui me dit « Hey, moi, je pense à 10 fois par jour m'enlever la vie. » J'en sais pas 3-4 en me disant, tout à coup, qu'il m'écouterait maintenant. Tout à coup, qu'il serait devant l'écran à m'écouter. Alors là, Laurent, je donne du 500% parce qu'il y en a une couple à qui que je veux rejoindre d'une façon spéciale. Et en rejoignant une couple, je suis certain que les 30 000, les 40 000 qui m'écoutent à la télévision vont être rejoints parce que j'en ai rejoint dans le cœur quelques-uns. Je pars loin des autres. Tu as quelques personnes à aimer d'une façon spéciale dans cet incite. Tu peux pas aimer les 20 000 à la fois que tu vas t'occuper dans ta vie. Tu peux pas aimer 100 000 personnes d'avance. Mais tu peux aimer la personne aujourd'hui que tu as aimée. Et en aimant cette personne-là, ton cœur s'élargit, puis tu rejoins les gens. Patrick Roy dit, le troisième geste que je pose, c'est pendant l'hymne national. Pendant que l'hymne national joue, je suis devant mes buts, je ferme les yeux, je vais chercher ma force, ma puissance supérieure, ma force intérieure, le don de jouer au hockey que j'ai eu, il me vient de quelque part, c'est pas moi qui joue au hockey de cette façon-là, j'ai une force qui me vient d'ailleurs, je me ferme les yeux et je vais chercher cette force-là. Et là, j'ai une énergie qui n'a pas de bon sens. Puis il dit, mon quatrième geste, quand l'hymne national finit puis que les gens font le tour de la patinoire, il dit, je m'assure que je regarde chaque joueur et je me demande si j'ai dit un bon mot à chaque joueur, si j'ai fait un bon geste pour chaque joueur qui joue avec moi ce soir. Et si je m'aperçois, pendant qu'il tourne autour de la patinoire, qu'il y en a un que j'ai oublié, j'ai pas été y dire aujourd'hui, qui est important puis qui en vaut la peine, je vais retourner au banc des joueurs pour lui dire, tu sais, on joue ensemble, t'es de l'équipe, je suis content que tu sois là ce soir pour la partie-là. Tu vas faire la différence de notre partie ce soir, parce que toi, t'es là, dans la game, t'es partie prenante de l'équipe avec nous autres. T'as une mission à remplir. Va chercher ce qu'il te faut pour la remplir. Dieu a confiance en toi. Dieu t'a pas mis là pour rien. T'as pas le passé que t'as pour rien. T'as quelque chose à donner aux gens. Et je te laisse avec cette pensée-là, cette anecdote. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est organisé avec le DU. En tout cas, c'est cute à mort. Il paraît qu'un père, un soir, un père, de famille, qui rentre fatigué, à la maison, après le travail. Vous savez qu'un homme qui est fatigué, c'est 10 fois pire qu'une femme fatiguée, ça, hein? Ah, c'est bien, une grippe d'homme, c'est bien pire qu'une grippe de femme, hein, c'est effrayant. Nous autres, les hommes, hein, quand on a une grippe, là, c'est... Alors, le père est fatigué, alors il est assis sur devant sa télévision, sa 50, son journal, et puis il veut rien savoir, il veut rien se reposer. Alors, le petit gars est là, il dit, papa, viens jouer, papa. Viens jouer. Hey, tu vois bien que je suis fatigué. Hey, laisse-moi en paix. Papa, viens jouer. Hey, va voir ta mère, toi. Papa. Le bonhomme, il y a le monsieur, c'est pas gentil. Alors, il y a son papier journal, ouvert à pleine page, la page centrale, puis il s'aperçoit que la page centrale du journal, ce soir-là, c'est une map du monde. C'est une carte du monde. Tous les pays, toutes les rivières, toutes les montagnes, toutes les lacs. Carte du monde. Ah ben, il dit, j'ai une idée. Il prend la carte, puis il déchire ça en 1000 morceaux, puis il sac ça dans le, sur le plancher dans le salon. Puis il dit à son jeune, tu me ramasses ça, t'amènes ça dans ta chambre, et tu me remontes la carte du monde. Puis je veux tous les pays à bonne place, puis toutes les villes, toutes les montagnes, toutes les rivières, je veux tout ça à bonne place, comprends-tu? Puis après ça, tu reviendras jouer, là je jouerai avec toi, mais va me monter la carte du monde. Et le bonhomme dit, hey, j'en ai pour 3 heures, ça va y prendre 3 heures, je vais avoir la paix, puis il va être assez fatigué après que je n'ai même pas joué, mais on joue avec lui. Alors, il l'envoie dans sa chambre, le petit bonhomme, 20 minutes après, il revient, la carte du monde a remonté. Il dit, non, 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 ça se peut pas. Hey, t'as trouvé un truc, mon grand. Non, 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 t'es pas assez brillant pour me remonter ça en 20 minutes, certain. Pas toi, chose. Hey, père, je te le dis, viens voir. La carte du monde, hey, impeccable, remontée. Il dit, comment t'as fait? Il dit, père, regarde bien. T'es pas génial, génial, père. Il, regarde bien, l'autre bord de la carte du monde, sur le papier journal, il y avait le visage d'un vieux monsieur, un visage tout défait. Il y avait des craques dans la face. Alors, j'ai pris le visage du monsieur, puis j'ai suivi des craques, puis j'ai remonté tout le visage. Ça m'a pris 20 minutes. Puis j'ai retourné ça, la page à l'envers. Ça a donné la carte du monde. Hey, dis mon petit Moses, toi, hey, t'es brillant. Il dit, père, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux changer le monde, hein? Tu veux remonter la carte du monde, hein? Commence-toi donc par la face, père. Remonte-toi la face. Quelle beauté de toi. Tu veux que le monde soit plus beau? Tu veux que ça aille mieux dans la société? Tu voudrais que le monde soit en amour? Tu voudrais que le monde, qu'il y ait quelque chose qui change? Sois belle. Sois en amour. Sois la plus belle personne qu'il n'y a pas au monde. Sois le couple le plus amoureux. Sois le jeune qui a le plus de passion dans le cœur, qui est plus habité par une passion, puis répand ça autour de toi. On se lève, on prend un chant, et après le chant, quelqu'un va venir vous